Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, le cinéaste Pierre Scheller.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te voir.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Les enfants ne sont pas des prophètes, mais ils sont les premiers concernés par leur futur, alors il se peut qu'ils le sentent venir. À Versailles, le jeudi saint, le roi lave les pieds des pauvres. Tandis que Louis XVI est tout à son geste et sa piété, l'un des garçons lui souffle qu'il portera bientôt des sabots. Affront, lèse-majesté ou réalisme politique précoce, voilà la relation entre un peuple et son roi, posée d'emblée, car ce sont les premiers mots que l'on entend dans votre film, Pierre Scheller. Plus tard, on entendra aussi que les citoyens ne sont pas des enfants, et plus tard encore, juste avant de se voir couper la tête, dans un drôle de silence, Louis XVI demandera « Où est son peuple, son bon peuple ?» En vérité, vous vous posez peut-être la même question, où est le peuple entre 1789 et 1792? Que vit-il? Que chante-t-il? Comment aime-t-il et prie-t-il? Et en filigrane, de manière plus contemporaine, comment le peuple peut-il exister au cinéma? Bonsoir Pierre Scheller.
Bonsoir.
Bienvenue. Un peuple et son roi, c'est le titre de votre film qui sort mercredi prochain en salle. Demain, à l'occasion de cette sortie au cinéma des cinéastes Paris 17e, vous ouvrirez une exposition, vous direz au revoir au film. Vous m'avez dit juste avant de commencer l'émission, ça veut dire quoi dire au revoir à un film?
Ça veut dire qu'à un moment donné, le film, vous le déposez dans la salle. Vous le laissez vivre sa vie, vous le laissez se débrouiller tout seul. Vous n'êtes plus là, soit à intervenir dessus, soit à parler avec lui, soit à tenir la main à tous ceux, aux comédiens, à tous ceux qui ont travaillé sur le film. Ça fait déjà des mois que je n'agis plus sur le film, puisque le film il s'est fait jusqu'en juin. On a terminé vraiment le travail sur le film. Là, vous agissez directement sur le film. Depuis juin, bon, j'ai pris un peu de vacances parce que ça a été long. Mais après, depuis juin, je suis là à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce film. Qu'est-ce qu'il est dans une salle? Comment le public le ressent? Comment la presse le ressent? Comment il arrive à tenir debout, à transmettre des choses, à communiquer plusieurs émotions, ou à laisser des goûts d'imperfection. Enfin, tout ça, je le découvre, vous voyez. Et je vais dire au revoir au film mercredi, parce que mercredi, c'est vraiment le moment où le film naît.
Ça fait des années que ce film, il est là, dans votre tête, dans celui de votre producteur, on en parlera peut-être, dans celle de vos comédiens, dans celle des figurants, je sais pas, aussi dans la manière dont les décors ont été pensés. Est-ce que dire au revoir à ce film-là, c'est un moment joyeux?
Oui. J'ai pris le parti pris de profiter pleinement de ces mois d'accompagnement du film, parce que c'est passionnant aussi de découvrir ça. Et c'est passionnant de aussi de commencer un dialogue avec la salle, d'avoir des entretiens longs. Évidemment, c'est une chance de pouvoir avoir un temps de parole aussi long qu'une heure. Et moi, ça m'aide à prendre de la distance, à mesurer le travail accompli, peut-être envisager ce que pourrait être la suite du travail. Et voilà, donc c'est un temps d'ailleurs qui va pas s'arrêter mercredi, parce que après, en octobre, j'ai encore d'autres présentations, je vais aller à l'étranger. Là on rentre dans une autre phase qui est celle plutôt d'une transition entre un film qui vous occupe beaucoup, qui vous obsède, qui vous réveille la nuit, qui pose plein de questions de cinéma, plein de questions sur, dans tous les sens. Et le nouveau travail, je sais pas ce qu'il va être. Il va se dessiner là dans les semaines à venir.
C'est un film historique, donc on va dire tout de suite que vous étiez hier au micro d'Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l'Histoire pour ouvrir toute une semaine consacrée au regard porté sur la Révolution française. Je le précise aussi parce que probablement nous aurons moins de discussions historiographiques ce soir que vous n'en avez eu hier avec Emmanuel et que donc c'est complémentaire. J'invite nos auditeurs à découvrir cet entretien-là. Un extrait.
Le jour où la France aura des représentants perpétuels et point de roi sera le dernier jour de la liberté. Tout pouvoir finit presque toujours par corrompre les hommes. L'usage de l'autorité engendre l'ambition de l'autorité. L'histoire de toutes les révolutions vous présente des êtres de pouvoir qui finissent par exercer le plus terrible de tous les despotismes, celui qui porte le costume de la liberté. Quand il y a dans un État un corps qui dit « je veux », il faut un autre corps qui puisse dire « je ne veux pas ». Mais s'il y a réunion de pouvoir dans un seul corps, il y a despotisme. C'est pourquoi nous avons besoin et d'un roi et d'une assemblée élue pour que l'État soit assis sur ses deux jambes, debout, en équilibre. La nation grandira.
C'est un des discours portés à l'Assemblée, Pierre Scheuler, et j'avoue qu'en écoutant celui-ci, pour celles et ceux qui, comme moi, ont été marqués par votre précédent film, L'exercice de l'État, c'était difficile de ne pas me dire « Ok, il continue en fait, il continue de réfléchir sur le pouvoir, sur l'exercice du pouvoir, sur ce que c'est que de vouloir le pouvoir ou le détenir. » Est-ce qu'il y a une filiation absolument directe entre les deux films de cet ordre-là ?
Il y a à la fois cette filiation dont vous parlez, et puis, je dirais, on est sur une autre face de la question du pouvoir. On est sur une face où la politique n'est plus un enjeu de territoire, un enjeu de lutte, de position autour de détenir ou ne pas détenir le pouvoir, mais un enjeu de conquête de droits, de conquête d'égalité, quelque chose de progressiste, quelque chose qui construit une société, qui la fonde. Et donc, on passe de la question de l'un, de la question de celui qui détient le pouvoir, pour passer à la question du multiple, de la collectivité, d'un peuple, de représentants, qui essayent de se dessiner un destin politique, ou même une vie, parce que la Révolution française est bien plus qu'un projet politique.
Quand vous dites que ça agite quand même cette question du pouvoir, est-ce que vous savez, vous, en tant que cinéaste ou en tant que citoyen, qu'est-ce qui vous interpelle dans cette question-là ? Pourquoi est-ce que votre cinéma en fait sa matière première, là, en tout cas sur ces deux films-là ?
J'essaye souvent d'aller vers ce qui m'échappe, vers ce que j'ignore, vers ce qui me résiste. Et dans un premier temps, ça a été un film sur la condition ouvrière. Sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui un ouvrier sur une chaîne de montage, alors qu'on nous raconte qu'un ouvrier aujourd'hui est quelqu'un qui regarde son usine fermée, et quelqu'un qui est un intérimaire, qui est là de manière vacante, qui est quelqu'un qui est nostalgique d'une condition ouvrière. Alors non, il y a aujourd'hui, tous les jours, des hommes et des femmes qui se lève en pleine nuit pour aller sur les chaînes de montage. Ça, c'était le premier film. Le deuxième film était un film sur le lien social, vu à travers le prisme de quelqu'un qui justement s'était mis en retrait de la société, qui était Versailles, avec Guillaume Depardieu, Judith Chemla, Max Bessette de Malglaive. Le troisième film est je me rapproche de cette question du pouvoir parce que je m'aperçois que ce qui me taraude, c'est une espèce d'insurrection intérieure autour de la situation du pays, de la montée des inégalités, de cette présence de la pauvreté dans les villes. Je vis à Paris, mais je sais aussi qu'elle n'est pas qu'à Paris, cette pauvreté. On a encore eu, il y a 15 jours, les chiffres sur la grande majorité insupportable de population française qui a faim. Donc je voulais étudier, savoir pourquoi filmer, qu'est-ce que c'est cette impuissance politique à simplement régler des choses qui nous paraissent très simples. Et je vais là directement au cœur de la question, c'est-à-dire un ministère. Et sortant de ce film, je me disais, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose de pas clair entre comment les gouvernants considèrent le peuple et comment le peuple considère les gouvernants et comment le peuple lui-même ne se considère pas comme puissance politique, comme acteur politique, si ce n'est par l'intermède de partis ou d'idéologies ou de représentants emblématiques qu'on brandit puis qu'on désingue, etc. Je vous dis ça, c'est un peu long, mais c'est vraiment le chemin. Et je me dis, revenons à un temps originel, revenons à un temps de fondation, et c'est évidemment la Révolution française. Et je vous dis que je ne suis pas historien, je connaissais très mal ces événements, donc j'ai commencé à lire, j'ai commencé à lire simplement, à me familiariser avec la chronologie des événements, avec les personnages historiques, etc. Et là, je découvre justement ce que j'allais chercher, c'est-à-dire un peuple actif, un peuple décisif, un peuple... un moment où la politique appartient à tous et est vécue par tous avec leur chair, avec leur conviction. Et c'est pas un tous qui est à l'unisson. C'est un tous qui débat, qui discute, qui se cherche un destin. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils construisent des choses. Et c'est la deuxième, pour moi, belle surprise du sujet, c'est que je découvre un temps d'invention. Non pas un temps d'opposition, non pas un temps de violence, non pas un temps de négation, un temps d'invention collective. Parce que les premières années de la Révolution, c'est un temps d'invention collectif.
Et d'invention de la vie, vous montrez bien à quel point c'est aussi, en tout cas l'imbrication de la politique et de l'existence très intime et personnelle est au cœur du film que vous choisissez de faire, Pierre Scheuler. Si bien que je parlais de l'enfant et j'ai vraiment été assez étonnée ou comment dire peut-être attiré par la présence des enfants dans ce film-là, ouais. Et leur rôle et le regard qu'ils posent sur ce qui est en train de se tramer, y compris l'enfant mort, puisque très rapidement, un enfant meurt probablement de faim ou d'autre chose dans ces faubourgs que vous filmez.
Naissances aussi.
Et des naissances, exactement. Et d'un seul coup, on se dit, il y a quelque chose de l'ordre du futur qu'ils cherchent à filmer là, de cette manière-là. Ça pourrait paraître bêta de dire enfant égale futur, mais quand même, quand on est en train d'essayer d'inventer un autre monde ou d'inventer d'autres vies, c'est comme si vous les regardiez de cette manière-là, les enfants.
C'est extrêmement sensible ce que vous dites là, parce que c'est pas dit dans les dialogues, c'est dit par les images. Et à un moment donné, on a Renaudu, qui est joué par Céline Salette, qui chante dans l'émotion de la prise de la Bastille, dans l'après-coup de la prise de la Bastille. Et c'est vrai, je m'attarde sur les enfants qui sont... Clémence et Petit Prosper.
Tout le temps, je veux dire.
C'est les enfants qui travaillent.
Quand elle tâte une blague qu'on veut lui faire, une tête qui serait ramenée, ouais. Et que c'est du pain.
C'est simple, c'est les générations futures. C'est aussi ça devient très touchant si vous dites que vous êtes dans la Révolution et que ça sera un souvenir d'enfance. Enfin, moi, ça me touche. Ça me donne la chair de poule parce que d'abord, c'est un monde naissant. Et puis, ils vivent l'événement avec leur temps d'enfance. Et en y étant dans les événements, en disant des choses. Par exemple, c'est un des derniers personnages qui parle à l'exécution du roi. C'est Clémence encore qu'on retrouve. Et comme les révolutionnaires sont obsédés par la génération future, ils n'arrêtent pas d'en parler. Dans 2000 ans, on s'en souviendra. Ils sont obsédés par l'idée d'inscrire dans le processus du temps ce qu'ils font. Ces enfants sont là. Et alors, qui ils sont? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que Michelet était enfant pendant la Révolution. Son père était au Jacobin. En fait, ces enfants que vous voyez, ils ont une petite part d'enfance dans le 18e, et puis assez vite, ils vont basculer dans le 19e. Et là, ça va être une autre histoire de l'enfance qui va être racontée.
C'est quand même assez intéressant que ce soit la première voix qu'on entend, c'est celle d'un enfant face au roi qui dit « bientôt je porterai des sabots ».
Il faut bien choisir un début de film. fallait bien choisir dans un moment intemporel, qui est ce rituel de lavement de pied du jeudi saint, que le roi a fait jusqu'au moment où où il a dû partir de son palais. Oui, il y a cet enfant qui est là, qui dit... bientôt, j'aurai des sabots. Ces enfants, vous voyez, d'ailleurs, c'est ces enfants qui n'avaient jamais été filmés. Emma, Steve qui joue Clémence et Emmerich qui joue le petit Prosper, c'était leur première fois qu'ils étaient à l'écran. Et je crois qu'ils ont vécu une forme de rêve parce que c'est les plongées comme ça dans le... J'ai en mémoire des photos ou d'essayages de costumes où ils sont là, où il y avait d'autres enfants aussi parce qu'il y a... Il y a d'autres enfants qui circulent dans le film. Et puis je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui est la spontanéité. C'est-à-dire que dans la difficulté du film historique, le fait c'est que vous êtes face à une matière que vous représentez, que vous ne pouvez pas présenter au spectateur comme quelque chose d'inconnu, parce qu'il y a toujours, tout le monde a des images de la Révolution française, tout le monde attend certaines scènes, tout le monde aimerait aller par là ou par là. Donc, le film, il doit inventer sa propre spontanéité et constamment garder cette tension sur l'instant présent. Et les enfants sont précieux pour ça.
J'ai un problème, si on peut dire, du point de vue théâtral avec le peuple, c'est que c'est une entité irreprésentable, scéniquement, à moins de considérer qu'il suffirait de mettre 300 figurants sur scène avec des habits ou des haillons pour le représenter. Donc je pense qu'il est irreprésentable. D'ailleurs, cette notion est une notion problématique. Cette notion de peuple, elle l'était déjà à l'époque, d'ailleurs. Et ça, je dirais, ça n'a pas cessé. Est-ce qu'on parle de la plèbe? Est-ce qu'on parle de la populace, comme il disait à l'époque? Est-ce qu'on parle des masses populaires? Donc, ou est-ce qu'on parle de la population? Donc, oui, le peuple, c'était un problème théâtral. Parce que il est évidemment cette population française, ces manifestations populaires sont évidemment au cœur de l'action révolutionnaire, mais sur scène, il n'est pas représentable concrètement, à moins d'en faire des figures, comme je disais tout à l'heure, qui sont des figures problématique, désuète.
C'est la voix de Joël Pommara, metteur en scène, reçu à la Grande Table sur France Culture en 2015 à propos de son travail Ça ira, la fin de Louis. Il avait travaillé aussi à l'époque, probablement que ça tourne encore, je crois, autour de la Révolution française. Il dit « Moi, j'ai un problème théâtral avec le peuple, c'est que ça n'est pas représentable. » Pierre Scheler, est-ce que vous avez eu un problème cinématographique avec le peuple ?
Mais forcément. Forcément. C'est qu'est-ce que le peuple ? Quelle image du peuple on peut véhiculer? Est-ce que une communauté de spectateurs dans une salle de cinéma est un fragment du peuple qui viendrait regarder une représentation du peuple? Alors, c'est assez simple. J'ai choisi de défier cette question directement avec le titre et de dire le film s'appellera Un peuple et son roi. Maintenant, on va se débrouiller avec ça. Mais pour moi, c'était un geste important.
Comme un préalable, quoi. C'est-à-dire, forcément, il y aura le mot « un peuple » dans mon titre. Et ensuite, je vais me dépatouiller en tant que metteur en scène et en tant que scénariste avec cette question-là.
Voilà. En tout cas, c'était quelque chose qui allait m'aider à dire aux spectateurs, à désigner que le film allait aborder directement ce motif artistique, cette question politique, cette complexité humaine. Ça veut dire que dans le film... C'est, pour moi, le peuple, c'est la multitude, la diversité des existences, la diversité des âges, la diversité des points de vue, la diversité des conditions. Ça veut dire que pour moi, la révolution concerne, engage l'avenir de tous, de leur temps et aussi après. C'est le rayonnement de cet événement, de ces événements, est tellement puissant que j'avais en tête l'image d'une étoile morte dont le rayonnement, la lumière d'origine traversait l'espace et le temps et continuait d'être observée d'ici. Je crois qu'il y a ça dans la Révolution. Je crois que c'est pas une mythologie de raconter ça. C'est-à-dire que cette demande, par exemple, d'égalité des droits, cette demande d'avoir une diversité d'opinions, Est-ce que ça nous fait pas penser à quelque chose aujourd'hui qu'on traverse tous et qui demain prendra peut-être une autre forme? Vous voyez, c'est là où il ne s'agit pas d'aller chercher des formes politiques qui seraient et de les rejouer dans un mimétisme. Il s'agit d'aller chercher une énergie politique, un rapport à la vie qui, je crois, est quelque chose qui a été trop longtemps travesti de mots de violence, de mots de révolte, de mots d'enfantillage, de caprice sanguinaire, de tyran, etc. Je crois qu'il y a, à un moment donné, dans l'histoire humaine, quelque chose qui circule, qui est à voir avec ne pas avoir peur de l'inconnu, écouter une demande de droit, une demande de liberté, une demande de partage, de fraternité, et que ça, on peut l'habiter de toutes les idéologies. Je crois que c'est en nous.
Mais ça se filme, en tout cas il faut le filmer, et ça demande que vous fassiez des choix plastiques à l'écran, que vous puissiez traduire cette idée-là d'hétérogénéité, de cette énergie dont vous parlez. L'un des choix que vous faites, c'est de filmer les faubourgs de Paris, et par exemple d'aller voir du côté de différents métiers, mais celui de Verrier,
oui.
Si bien que assez rapidement on se dit que le four, le foyer, la flamme avec laquelle le Verrier, ben ça a peut-être à voir avec la flamme, le foyer révolutionnaire, cette énergie dont vous parlez. Comment avez-vous choisi d'un côté la flamme et de l'autre côté l'eau, puisque c'est le Verrier et les lavandières que vous filmez en priorité,
ben, Pierre Scholler? Ça c'est un peu des petites histoires de cuisine dans l'écriture. C'est que effectivement, je savais que le film allait être habité, par exemple, de discussions politiques, de discours, de faits et gestes politiques. Mais néanmoins, ce qui est bien avec le cinéma, c'est la force de l'écriture sonore et la force des images, et que ça soit sensible. À un moment donné, il faut quitter le cerveau pensant, il faut quitter l'énonciation des choses, il faut quitter le langage verbal pour aller à quelque
faire
chose,
de l'image.
Pour essayer d'avoir un langage de l'image et donc de proposer aux spectateurs des visions, une présence d'image, des scènes, on est presque au-delà de l'incarnation. C'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai recours à cette mise en scène lyrique, un peu hugolienne, de la mise en scène de la lumière qui dévoilait sur le quartier.
Parce que la Bastille tombe, parce que la Bastille tombe, voilà, rue peut avoir un peu de lumière.
Et voilà que j'étais confronté à un problème de l'inouï, c'est-à-dire à leur échelle, j'ai l'impression que ce qu'ils vivaient était tellement imprévisible, incalculable, inconnu, qu'il fallait bien trouver des images de ça, des sensations de ça. Donc il fallait quitter quelque part même le terrain politique, le questionnement politique, pour aller à des expériences sensibles. Et j'ai essayé comme ça de, effectivement, le film est aussi un chemin, l'histoire de ces expériences sensibles. Il y a par exemple ce cheval qui circule dans le film. Il y a des choses sur l'audition, sur l'écoute qui se passent.
Un homme qui perd la vue, un homme qui perd l'ouïe.
Voilà. Il y a des expériences. C'est avec le corps que ça se passe.
Est-ce que c'est une manière de dire que justement on risque son corps, alors pas uniquement par le coup humain que vous filmez aussi, Pierre Scholler, c'est-à-dire que il y a des moments où on compte les morts, il y a des moments où on dit leur nom, il y a des moments où on soigne les corps abîmés parce qu'ils ont ou elles ont engagé leur corps dans la lutte, mais c'est aussi de dire que peut-être l'invention politique passe par une nouvelle, je sais pas, réorganisation des corps d'une certaine manière. Quand votre personnage ne voit plus ou quand d'un seul coup il n'entend plus un autre personnage, on entend bien qu'il y a une sorte de reset, quoi, de remise à jour de nos corps que vous essayez de filmer là.
Ouais, c'est, je pense qu'il y a ça aussi dans l'émotion politique, c'est que ça engage les corps. Et même, par exemple, la marche des femmes, c'est des corps qui s'expriment. c'est des existences, c'est chroniqué, les faits qu'elles sont à bout de force, que certaines s'évanouissent sur le trajet, qu'elles ont réellement faim, et que malgré cette faim qui les taraude, elles continuent de porter une parole politique en essayant de prendre position sur cette résistance du roi à signer les décrets d'octobre, ou l'entourage de la reine a piétiné la cocarde, alors que la cocarde était symbole de renouveau de tout ce qui était en train de se dessiner. Voilà, c'est des montées d'expériences sensibles qu'elles viennent dire.
La liberté nous donnera du pain et des ailes. Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme.
Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme.
Hier piétiné la cocarde.
Des choses à vous dire. Ce sont les coquins qui ont accordé le veto au roi.
Nous sommes à l'Assemblée ici.
Faites que les farines échappent aux accapareurs et nous soient redonnées.
Faites que la cocarde ne soit pas insultée.
Le pain est rare. Il faut se lever dans la nuit pour espérer avoir une miche.
Le pain, les bonnes lois, c'est pareil. C'est de l'espoir.
Les nouveaux droits, l'égalité.
Écoutez-nous!
C'est ça que nous voulons.
Je vous prie une seule voix à la fois.
On a faim.
Qui d'entre vous porte la parole, s'il vous plaît?
Citoyen Maillard, patriote et vainqueur de la Bastille.
Messieurs.
Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Combien de sacs sont rentrés en ville durant ces derniers 10 jours? 53.
Alors.
Oui, messieurs. 53 sacs et 500 sautiers de blé.
Pur mensonge!
Pour des centaines de milliers de Parisiens affamés.
On nous fout le nez par terre. On ne fait pas du pain avec de la poussière.
Messieurs, ne voyez-vous pas que c'est une manœuvre?
On est fatigués! On a faim!
Ces femmes sont manipulées par le duc d'Orléans.
Je ne suis pas autrichienne! Je suis de la Halle. Je suis reine odue. Et j'ai une pierre dans le ventre. Et toi, l'emplumé, t'as quoi dans le ventre? Des rôtis? Des pintades? Cette lavandière a enterré son bébé il y a 6 jours. Raconte-leur, faut qu'ils sachent.
Président, sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu?
Foutre ce plumeur! Grenin!
Sont vous les gens de peu?
Je vous rappelle au respect de ce lieu. Nous avons une constitution à écrire pour la France.
Ce qui nous sauvera, c'est que le roi vienne faire son séjour à Paris. Qu'il chasse les accapareurs et les affameurs. La place d'un roi n'est pas d'être loin de son peuple.
Oui.
Louis XVI, à Paris! Le roi à Paris!
Le roi à Paris! Le roi à Paris!
Louis XVI à Paris!
Louis XVI à Paris!
Louis XVI à Paris!
Au bout de la liberté leur passera.
Jamais! Le roi à Paris, jamais! La place du roi est à Versailles! De votre vie, vous ne verrez jamais le roi à Paris!
C'est un extrait de votre film Pierre Scholler, long extrait parce que ça permet d'entendre la manière dont vous passez très souvent d'un espace à un autre, qui serait, pour le dire très rapidement, un espace populaire dans la nature, dans les faubourgs, dans les ateliers de verriers ou au bord du fleuve avec les lavandières, et puis l'espace, on va dire, purement politique et décisif qui serait à la fois Versailles et l'Assemblée. Il y a vraiment une sorte de jeu d'aller-retour en permanence et parfois de superposition où parfois on entend ce qui se dit de manière un peu théorique ou politique, uniquement politique dans l'Assemblée, superposé à des images de la vie du peuple, etc. C'est-à-dire Est-ce qu'on est obligé, comme dit l'un des députés, d'entendre parler ces gens de peu? C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit entendre parler ces gens de peu dans l'Assemblée? Ce jeu-là se joue au montage, se joue à l'écriture, se joue à quel moment, Pierre Scholler?
Ça se joue tout le temps, ça se joue à chaque moment. Parler d'un jeu, mais c'est une rencontre, en fait. C'est un jeu de rencontre. C'est quelque chose qui est, c'est-à-dire, je crois que ça m'a libéré à un moment donné de me dire, je n'allais pas être dans une forme traditionnelle romanesque du 19e, que j'allais essayer d'aller vers leur culture à eux, de ces temps révolutionnaires, d'où la découverte des chansons, d'où le, quand c'est politique, c'est vraiment politique, quand c'est intime, c'est vraiment intime, parce que, en fait, le geste du cinéaste, c'est d'essayer de brasser tout ça, d'être dans ce torrent. C'est fort, un torrent, c'est puissant, donc vous pouvez pas y aller d'emblée, vous y allez peu à peu, et à un moment donné, finalement, vous êtes bien, et à ce moment-là, vous pouvez accepter la force de ce torrent, comment il vous entraîne, etc., et de vous laisser emporter par ce torrent. Et je voulais qu'il y ait ça dans le film, qu'on se laisse emporter par cette diversité de personnages, par tous ces points de vue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en montrant le film, c'est que finalement, à l'Assemblée, par exemple, ou à la salle de manège, ou même dans cette scène qu'on vient d'entendre, eh ben, je laisse une petite part d'initiative au spectateur de se positionner là où il a envie de se positionner. Est-ce qu'il veut être avec la femme qui, par exemple, n'intervient pas dans la scène, il peut être là. Et s'il veut être avec Renaudu, il peut être avec Renaudu. S'il veut être avec Françoise, parce que Françoise sera le personnage féminin qui va construire le film, il peut être là. Et s'il veut être avec les députés, vous voyez. Et il y a un autre truc que j'ai entendu aussi, parce que c'est troublant pour un cinéaste de ne pas voir, mais c'est super. Et ça, sur le champ, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que, et c'est un vrai problème de cinéma, et c'est un vrai problème sur le peuple, c'est comment isoler une voix dans
un
cœur.
C'est très clair, à un moment donné, ça se rapproche, voilà, d'Isia Huguelin de manière hallucinante, c'est que vous passez vraiment d'une voix de femme à une autre voix de femme.
Voilà, et qu'en même temps, l'énergie collective n'est pas perdue. Et ça, c'est quelque chose... on a beaucoup travaillé le son sur le film pour ça, parce que on voulait garder le caractère de chacun, tout en montrant la foule. Je pense pas que je peux prétendre filmer des foules.
Mais vous l'avez pas fait. Enfin, vous avez pas vraiment exactement cherché à le faire dans ce film-là.
On a filmé des groupes, des communautés, des groupes.
Avant de revenir peut-être au choix quand même que vous faites de regarder peut-être plus précisément aussi des groupes où les femmes sont actives, où elles parlent de leur volonté de l'être davantage. Vous parlez d'un torrent, est-ce que vous vous êtes aussi retrouvé, Pierre Scholler, dans un torrent de documentation où d'un seul coup vous aviez des mélodies de chansons, des textes de discours politiques à l'Assemblée, des extraits de journaux, des affiches à un moment donné? Est-ce que ça a aussi constitué une sorte de mer dans laquelle il fallait nager un peu?
Au début, j'étais noyé, je respirais à peine. C'est là, quand j'ai découvert la bibliographie, il faut les lire, les livres, il faut les annoter, il faut recopier, enfin tout un travail assez studieux et long, qui n'a pas grand chose à voir avec l'écriture d'un scénario, mais il fallait que je passe par là pour sentir et trouver des positions de cinéaste dans la densité des événements. Je dois saluer l'accueil et l'hospitalité des historiens, de tous les historiens avec qui j'ai pu travailler ou j'ai pu contacter ou déranger dans leur séminaire de recherche. Il y a un pacte avec les historiens dans le film, qui est le pacte du présent. C'est-à-dire, un film historique est une illusion, fondamentalement. Et cette illusion, il y a plein de moyens de l'aborder. Soit on en fait quelque chose d'éblouissant, comme un bel objet dans un musée, dans une vitrine. Soit on vient contrer l'illusion en mettant, par exemple, comme Peter Watkins, qui met du présent, qui met la vie d'aujourd'hui dans l'illusion historique. Pommerat, Joël, il fait encore autre chose. Il fait dialoguer le présent et des choses qui viennent du passé, mais qu'il ne prend pas dans un passé, qu'il essaye de redonner dans un présent, etc.
Et votre choix à vous ?
Moi, le choix, il est très très clair. Il était de dire, ce qui a eu lieu. Et on va essayer de s'approcher de ce qui a eu lieu. Parce que ce qui a eu lieu, pour moi, est toute une cohérence. Ça me touchait qu'ils n'avaient pas l'électricité. Ça me touchait qu'ils n'avaient pas Internet. Qu'ils ont fait ça à la bougie. Qu'ils ont fait ça à la encre, à la plume. Ça me touchait que les bancs qu'en catastrophe, ils doivent construire cette assemblée à Paris parce que ils n'avaient pas du tout prévu ça et qu'il fallait trouver une salle qui n'était pas du tout une salle politique, qui était un manège où il y avait un cheval dans la poussière. Tout ça, cette improvisation, cette nécessité dans l'urgence et la fragilité des événements. Parce que c'est ça qui, au final, peut-être, aujourd'hui, me parle le plus, c'est à quel point tout ça est fragile. Tout ça est incertain et en même temps, c'est un mélange de fragilité et de solidité et de puissance dans les événements qui renvoient au rayonnement dont je parlais tout à l'heure.
Est-ce que ça se sentait sur le tournage, par exemple, eux, ils ont peut-être à créer une assemblée sur un manège d'équitation comme ça, à la va-vite, mais vous avez à recréer ou à travailler une image du XVIIIe siècle un peu comme ça aussi. Alors, est-ce que d'un seul coup, vous approchez, sur des projets extrêmement différents, mais cette fragilité du présent, cette délicatesse, le fait que, bon...
Bah, c'est-à-dire que le tournage, vous arriviez le matin, les comédiens passaient par un long temps d'habillage, de maquillage, de costume, ils rentraient sur le décor. Moi, je restais beaucoup sur le décor, et ça fait, à un moment donné, ça crée un monde.
Quand on entend prendre la parole les comédiens et les comédiennes dans l'assemblée, est-ce que vous êtes en prise avec quelque chose d'aussi... pas d'aussi palpitant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi? Je suis vraiment pas claire, mais vous voyez ce que je veux dire,
non,
ou pas?
Je vois très bien. J'ai ressenti, à quelques moments, un truc de l'ordre du médium. C'est-à-dire, effectivement, j'avais l'impression de ne plus être dans une illusion, mais d'être transporté. D'être vraiment pas de réentendre, mais d'entendre. Ou de partager. Un truc qui c'était rare.
C'est ça que vous appelez le pacte du présent?
Alors non, le pacte du présent c'est vivre une histoire passée comme si c'était un présent, pas notre présent. C'est-à-dire tout commence à inventer une sensation de présent mais qui n'est pas le nôtre, qui est un autre présent. Celui de la Révolution française, ça passe par plein de détails. Et pour avoir cette sensation de présent, il faut que tout marche ensemble. C'est comme un orchestre. S'il y a une fausse note, s'il y a un geste qui rappelle trop le contemporain, ça va tout de suite briser l'illusion, briser le sentiment qu'on est avec ces femmes qui marchent. Qu'on ne sait pas ce qu'elle va dire, on ne sait pas quel va être le mot d'après de Robespierre.
Et par exemple, ça passe aussi par le fait que, quand vous dites on ne sait pas ce que le prochain mot dit par Robespierre, ça veut dire que lorsque vous filmez les premiers discours de Robespierre dans l'Assemblée, vous ne filmez pas le Robespierre qu'on connaît maintenant, vous filmez un Robespierre qui n'est pas hyper écouté, qui porte ses discours, mais voilà, ça n'est pas la figure historique, vous n'héroïsez pas du tout le Robespierre, ni les autres grandes figures de cette Assemblée.
Oui, mais ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le film, l'espace du film, il doit exister en essayant de créer son propre espace et en essayant de mettre un peu à l'écart les images établies. Sinon, vous redites l'histoire officielle. Et pour moi, ça n'a aucun enjeu. Ça, voilà, ce film est mon regard sur la Révolution, ce que j'ai perçu en allant au plus près des archives, ce que j'y vois dans le destin de ces hommes, et c'est ça que j'essaye de raconter.
Dans le destin de ces hommes et de ces femmes, parce que très souvent, le film rappelle combien est-ce que vous tenez à ce que leur place soit effective à ces femmes-là. Et peut-être vous y tenez parce que tout simplement vous l'avez rencontrée dans les archives, ou peut-être parce que l'écho avec notre présent cette fois-ci vous a mis sur cette piste-là, Pierre Scholler.
C'est pas tellement l'écho, enfin l'écho avec notre présent. Je commence à travailler le scénario il y a 6 ans. Je sortais assez. J'ai eu beaucoup de remarques sur l'exercice de l'État qui est avec cette espèce d'omniprésence des figures masculines dans le film, etc. L'ouverture aussi qui a fait parler avec le crocodile et cette femme nue qui s'avance. Donc cette question de la place du féminin était déjà là. Et c'était évident que le film d'après était un film qui est... J'allais filmer des femmes, j'allais écrire des personnages féminins. C'était évident. Après, la bonne surprise, c'est que je les ai retrouvées. J'en ai retrouvé certaines. J'ai retrouvé Renaudu, j'ai retrouvé Pauline Léon, j'ai retrouvé des moments féminin dans la Révolution française, mais des moments où les femmes et les hommes aussi discutent ensemble politique, des moments où les femmes combattent, des moments où les femmes veillent une autre qui vient de tomber à la lutte, etc. Donc tout ça c'était super, c'était formidable et en plus j'ai pu rencontrer des comédiennes absolument formidables et que je trouve qui c'est un bonheur pour un cinéaste qu'elle soit là, qu'elle de travailler avec elles, de leur investissement, comment elles-mêmes ont... Adèle le rappelait hier, comment à un moment donné Adèle Haenel m'a interpellé en disant mais Françoise quand même
le prénom de son personnage.
Oui, elle intervient pas assez T'es sûr de telle scène, on pourrait pas aller un peu là, à tel moment, elle pourrait dire quelque chose, etc. C'est ça qui était fait très bien.
Et puis, je sais pas, on peut citer Noémie Lvovsky, mais aussi par exemple Audrey Bonnet, qui quasiment, pendant la durée totale du film, ne parle pas, joue de sa présence, et parle à un moment assez crucial.
Il y a Izia Higelin, il y a Julia Artamanov qui joue Pauline, il y a cette jeune comédienne qui joue la reine aussi.
Céline Salette. Elles sont nombreuses.
Mais la vraie reine.
Oui, non, j'entends, mais Céline Salette, on l'avait pas citée.
Et Céline Salette, ça. Et c'était vraiment chouette, quoi. Parce qu'en plus, tout ce qui se passait avec les costumes dans le film était passionnant.
Pourquoi?
Parce que c'est un monde. C'est la rencontre avec Anaïs Roman, la créatrice des costumes, était une belle rencontre. Et puis toute l'équipe, et puis tout l'atelier, c'est formidable. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Vraiment intéressant aussi, le fantasme des révolutionnaires, c'est vraiment presque d'abolir la nuit,
que la révolution soit présente en permanence
tout le temps.
À chaque heure.
Mais oui, parce que c'est terrifiant d'inventer, c'est exaltant et terrifiant d'inventer un monde en si peu de temps quand on sait qu'on est engagé dans une urgence folle, c'est-à-dire qu'on dort beaucoup moins pendant la révolution. Alors évidemment, ça dépend aussi de là où on habite, à quelle catégorie sociale on fait partie. Mais les difficultés d'alimentation font que dans les périodes les plus dures, on est obligé de faire, et surtout les femmes, faire la queue devant les boulangeries la nuit, etc. Donc, pendant toutes les fêtes révolutionnaires, on a un rapport à la lumière, aux feux d'artifice, aux illuminations. Hein. Proclamer les valeurs de la révolution, c'est illuminer. C'est vraiment, voilà, lutter contre la nuit. Hein. La métaphore de la lumière, pour décrire ce siècle, hein, le mouvement des encyclopédistes, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que le jour, avec les rapports aussi à l'électricité qui est en train de se... On a l'impression que cette énergie électrique peut transformer le monde. C'est aussi un rapport au jour et à la nuit qu'on a envie d'inverser.
C'est Guillaume Mazot, maître de conférence en 2007 au micro d'Emmanuel Laurentin et d'Anaïs Quien dans La Fabrique de l'Histoire. Pierre Scholler, la révolution, c'est vouloir supprimer la nuit. C'est vraiment une histoire de lumière et d'obscurité. Dans Un peuple et son roi, il y a vraiment tout le temps cette question-là. Vous disiez tout à l'heure l'apparition de la lumière au moment de la chute de la Bastille, la manière dont le soleil arrive enfin dans la rue, mais aussi la flamme du verrier ou encore la flamme des bougies lorsqu'on parle politique. Ça aussi, ça a été une question que vous avez réglée cinématographiquement, écrit cinématographiquement, la manière d'osciller entre la nuit et le jour et toutes les métaphores qui vont avec.
Oui, c'était bon. Évidemment que le choix du verrier est crucial par rapport à ça, parce que vous avez un feu créateur, et aussi un travail avec une matière quasi volcanique qui devient un objet transparent et fixe et stable, etc. Ce que j'ai découvert que j'avais pas vu venir, c'est que la lumière d'une torche, la lumière d'une bougie, est une lumière mouvante. C'est-à-dire que sur un visage, sur un quelqu'un qui marche, ça n'a pas du tout la même vie à l'image que la lumière électrique. En fait, la lumière électrique nous fige, nous arrête, nous immobilise étrangement. Je sais pas si vous avez connu ça, mais à un moment donné, les halogènes sont rentrés dans les maisons, dans les appartements, et là, on était quasiment épinglés au mur par la blancheur crue de l'halogène, et on a l'impression qu'on était saisi dans un flash comme ça. Et c'est cette histoire de la lumière dans le film, elle est importante parce qu'elle est aussi sensuelle, parce que c'est aussi du coup la rencontre de la caméra numérique, de la chaîne de travail avec l'étalonnage, et de cette singularité de la lumière, de la bougie et du flambeau et du four aussi, parce que ça va jusqu'au four, et la pièce de verre qui est en train de se sculpter, et ben finalement on s'est aperçu que la caméra adorait ça. Et qu'elle avait enregistré beaucoup de choses qu'on a été chercher dans le traitement traitement de la caméra, en fait, c'est ce passage par la caméra numérique.
Et c'est aussi une manière de, quand vous dites la lumière électrique nous fige et la flamme peut-être est plus mouvante et plus imprévisible, c'est une manière de filmer des êtres qui sont très complexes. Je pense par exemple à la manière dont vous filmez Louis XVI, Laurent Lafitte. Vous cherchez dans ses yeux la foi, peut-être la manière dont il vit l'événement historique et politique, son rapport au peuple lorsqu'il pose la main sur un vagabond dans la forêt. Enfin, on sent que dans la manière de filmer, il y a quelque chose où, chez ce personnage du roi, oui, vous voulez tout sauf le figé, quoi. Tout sauf être de la lumière électrique.
Et c'est vrai parce que j'ai l'impression que, avec Laurent Lafitte, à chaque scène, il est un peu différent. Il exprime quelque chose de différent. Il n'essaye pas de tenir un fil en disant, voilà, Louis XVI, c'était ça. Et c'était ce caractère-là, c'était ce trait de caractère, de psychologie qui... Non, ce qui est marrant, et c'est là où Louis XVI, dans le film, atteint aussi une dimension politique, c'est que finalement, il interagit à chaque événement, à chaque scène. Il montre un autre visage de lui-même. Et surtout, il fait un truc, il garde du mystère. C'est-à-dire, à la fois, il propose du jeu, et dans ce jeu de comédien, il y a une grande part de mystère, des choses qui échappent, qu'on ne saisit pas très bien, on ne sait pas très bien ce que va dire ce sourire, ce regard, où il est posé, est-ce qu'il est là devant, comment il interprète l'instant, et ça c'est vraiment magnifique, parce que c'est une des difficultés que j'avais de base avec le film, c'était qu'est-ce que c'est un roi ? Qu'est-ce que c'est d'être né dans une royauté ? Pas tellement de savoir la psychologie d'un roi, mais du côté de nous, citoyens, citoyennes, enfants, qu'est-ce que c'est de vivre avec un roi qui est là, un roi qui est aussi là que la terre est plate ou que le soleil est là, et ça c'était j'en ai pas beaucoup parlé avec Laurent, mais je lui ai dit tout de suite que je voulais qu'il soit d'abord un roi avant d'être Louis XVI, et ça il l'a très bien capté.
Ça veut dire que vous saviez ce que c'était un roi?
Non, je lui ai dit, Louis XVI était grand comme De Gaulle, il était loin d'être un imbécile, il chassait beaucoup, la religion le fonde, et la ferveur est quelque chose qui a un sens pour lui, un sens humain. Plusieurs fois, il refuse qu'on fasse tirer sur le peuple, et je pense que c'est aussi parce qu'il ne peut pas le faire, que c'est contre sa religion, d'une certaine manière. Alors que l'intérêt politique de sa classe voudrait qu'il le fasse.
De même, l'ambivalence de la dernière phrase qu'il prononce avant de se voir couper la tête, « Où est mon peuple ? Où est mon bon peuple ?»
Ouais, mais parce que il est dépositaire de ça. Il est dépositaire du bien-être du peuple. Il était le père de la nation. Il était le lien aux religieux direct.
Aujourd'hui, la question de la Révolution française, c'est la question d'un laboratoire politique. Et je dirais que si on veut être un peu conséquent avec ce laboratoire politique, peut-être qu'il faut entendre les acteurs eux-mêmes, comme par exemple Saint-Just. Il ne faut rien négliger de l'histoire, mais il ne faut rien imiter. On est effectivement longtemps après la Révolution française, et je crois qu'en aucun cas on peut aujourd'hui, même si on s'intéresse au personnage de Robespierre, se déclarer robespierriste. Ça n'a pas de sens contemporain. Par contre, ça a du sens de comprendre à quels obstacles, à quelles limites, à quelles apories les robespierristes ou Robespierre lui-même ou les révolutionnaires se sont heurtés, pour pouvoir nous-mêmes réfléchir sur notre situation politique, ce qui n'est pas du tout la même manière de procéder. Je ne crois pas qu'un événement comme la Révolution française puisse s'éteindre. Le propre d'un événement aussi magistral, c'est justement d'être illimité dans sa durée. Mais par contre, il y a une série de moments chauds et de moments moins chauds dans la capacité d'aller la regarder et d'être capable d'en faire quelque chose pour aujourd'hui. Et que de ce point de vue-là, on est à nouveau dans un moment chaud, et que c'est pas parce qu'il y a eu toute une période de patrimonialisation qui a considéré que la Révolution était une affaire réglée, et bien que cette manière de faire est la seule qui est possible et la seule qui s'actualise aujourd'hui. Sans vouloir du tout faire de la Révolution française un modèle, effectivement, quand on parle de prendre des Bastilles ou quand on imagine que quand on va à Casa dans la tête, enfin, pour les Tunisiens, ça reste quand même un enjeu important. Et la référence, elle est polémique, pour le coup, d'une manière extrêmement intéressante, parce que les manifestations récentes d'Ennahda contre la France ont à voir aussi avec la place qu'on donne au modèle révolutionnaire français et à ce qu'on appelle la modernité. Et du coup, je ne crois pas du tout que ça puisse s'éteindre. Je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec une pulsation, et que cette pulsation, on n'en décide pas.
C'est la voix de l'historienne Sophie Vaniche au micro de Guillaume Erner dans l'émission Service Public à l'époque sur France Inter en 2013. La Révolution française comme une pulsation infinie. Tout à l'heure, vous disiez, Pierre Scheller, la Révolution française comme un astre dont la lumière, un astre mort dont la lumière nous parvient encore. Dans la voix de Sophie Vaniche, c'est aussi l'idée de la possibilité de regarder cette révolution avec les yeux d'un présent politique et éventuellement de l'actualiser, éventuellement d'en faire usage, éventuellement, sinon de s'en inspirer comme modèle, dit-elle, peut-être de voir des outils pour aujourd'hui. Est-ce que c'est l'une d'ambition une des ambitions de votre film ou pas du tout ?
Pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le film en essayant de dire quelque chose sur aujourd'hui.
C'est le hasard, quoi, si ça parle.
Non. non, c'est pas le hasard. C'est par exemple, Imaginons que je veuille vraiment faire un film sur la 6ème République et qu'à ce moment-là, je me concentre sur les constituants qui ont eu cette question de donner une constitution et comment on donne une constitution à un pays, qui résiste à cette constitution, qui veut y travailler ou ne pas travailler. Là, j'aurais vraiment axé sur ça en disant, attendez, regardez bien, on parle d'une nouvelle constitution. Là, j'aurais voulu dire quelque chose sur aujourd'hui, tout en faisant un film sur la Révolution française. Mais je vous dis, mon approche était beaucoup plus simple que ça. Mon approche était d'associer, de s'approcher des gens qui ont une espérance politique, où la politique est un motif d'espérance, un motif de partage, un motif de mobilisation collective, un motif de création, voilà. C'est ça que j'ai essayé de m'en approcher, voilà, et de m'en approcher en me disant ça va peut-être faire du bien aujourd'hui.
Oui, c'est de ça dont je parle, c'est-à-dire que lorsque vous placez la parole, puisqu'on a assez peu parlé de ces discours à l'Assemblée, mais ce sont des moments extrêmement importants dans votre film, et vous les filmez comme des moments importants, Pierre Scheuler, la possibilité d'écho avec notre présent est quand même assez infinie. Il y a plein de choses à prendre, en tout cas, il y a plein de nourriture.
Voilà. Tout à fait.
Si je dis ça, je vous libère d'une intention politique claire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu les échos, j'ai vu les résonances, mais je n'ai pas cherché à les cultiver. Et je les prenais comme elles venaient. Alors, des fois, j'ai mis un petit accent, par exemple, avec cette insurrection qui vient, qui est une citation directe du...
Le titre du comité invisible.
Voilà, le titre du comité invisible. Mais pour moi, dans mon idée, c'était pour dire que, voilà, à un moment donné, la Révolution française passe par un temps d'insurrection, et il y a dans l'insurrection un motif aussi intemporel, comme le motif du soulèvement. Il y a un autre clin d'œil avec a-t-on déjà vu des policiers jeter des hommes à la Seine, qui rappelle les événements de 61 avec la répression sur les Algériens,
voilà, à Paris.
Mais ça, c'est des micro clins d'œil, c'est pas du tout l'intention première et l'intention décisive du film.
Merci beaucoup, Pierre Scheuler. Un peuple et son roi, c'est donc en salle ce mercredi, le jour de sortie, le jour où vous lui donnez naissance et vous le laissez tranquille, et il vous laisse peut-être tranquille. C'est donc demain, Paris 17e, au cinéma des cinéastes. Vous échangerez, j'imagine, un petit peu
avec
la salle.
Oui, je serai là, oui, à 20h.
Et ce sera aussi l'ouverture d'une exposition pour avoir le storyboard, quelques photographies de la peinture, des drapeaux, voilà. Plein de choses.
Et après,
ça ira.
Ça ira.
Au son ce soir, c'était Delphine Baudet à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de l'émission, trouver les références des archives et des musiques. Merci beaucoup à Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier qui m'aide à penser et préparer cette émission. Je vous dis à demain et très belle soirée sur France Culture.